Eh bien, les amis, nous allons ouvrir la parole de Dieu, non pas qu'on ne l'a pas ouverte déjà, mais d'une manière plus particulière. Vous vous rappelez que pour ceux d'entre vous qui étaient là dimanche dernier, nous sommes allés dans la première lettre de Paul à Timothée et nous allons y retourner. Au début, j'avais simplement le projet de faire un message à partir de ces paroles de Paul qui a écrit parce que il voulait donner des conseils à Timothée et puis le passage est trop plein. Alors nous allons retourner dans la première lettre de Paul à Timothée et au chapitre 3. Et nous regardons les versets 14 à 16. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 16. Et si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous invite à retourner. Il y a suffisamment d'endroits, de sites où on peut trouver la vidéo sur mon mur. Je crois que je l'ai sauvegardée. Mais il y a d'autres sites. Peut-être que, Hans, tu peux mettre l'adresse du site comme commentaire. Et puis, ceux qui veulent y aller pourront la copier. Je ne l'ai pas en tête. Voilà. Donc, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 3, commençant au verset 14. Et c'est Paul qui écrit à Timothée. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais c'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons regarder une grande déclaration de foi. Mais faisons un peu de récapitulation. On a vu que Paul est quelqu'un qui voyageait, un missionnaire qui allait de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu. Après avoir passé un temps à Éphèse, il laisse Timothée, un missionnaire qui est plus jeune, son collègue, il le laisse à Éphèse afin de conduire l'église locale, de l'aider à se structurer et aider l'église locale à s'attacher à Christ seul et à marcher toujours plus selon les Écritures. Voilà le job de Timothée. Et puis, pressentant que Timothée a besoin de conseils et d'encouragement, Timothée, c'est quelqu'un qui est un peu moins fonceur que Paul. Il a peut-être besoin de conseils et d'encouragement. Paul envisage de revenir à Éphèse, tout au moins de passer par Éphèse. Et ainsi, les deux, Paul et Timothée, pourront converser de vive voix sur les sujets qui les occupent. Mais Paul envisage la possibilité d'être retardé ou même de ne pas pouvoir arriver à Éphèse. Et en conséquence, il envoie une lettre à Timothée. Et on a relevé la semaine dernière que nous voyons ici la merveilleuse providence de Dieu, parce que le projet de Paul était d'aider Timothée à aider une église locale, Éphèse. Mais à cause de cette possibilité de ne pas pouvoir aller à Éphèse, eh bien, l'église universelle, dans toutes ses époques, dans tous ses âges, on pourrait dire, a bénéficié de ce qu'on appelle un Timothée. Donc, Dieu bénit son église. Dans cette première lettre, Paul donne beaucoup d'instructions à Timothée, des instructions qui sont encore très utiles aujourd'hui. Mais la semaine dernière, on s'est concentré sur trois images que l'apôtre Paul donne pour décrire l'Église de Jésus-Christ, le peuple racheté de Dieu. Il a parlé de la maison de Dieu. Et là, il faisait le lien avec l'Ancien Testament, le temple de l'Ancien Testament, pour montrer que les croyants issus des nations, les non-juifs, dont il y avait une majorité à Éphèse, n'ont aucun retard sur les juifs, parce qu'il y a des juifs venant de Jérusalem qui qui les troublait. Le temple parle ainsi de la grâce de Dieu qui habite au milieu de son peuple. Ce n'est pas le temple de Jérusalem, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le temple, c'est le lieu où Dieu fait la paix à travers le sang sur le propitiatoire. Aujourd'hui, le croyant suit celui qui est plus grand que le temple, celui vers lequel le temple pointait. Et donc, c'est un encouragement pour Timothée. Paul utilise aussi l'image de l'Église du Dieu vivant. Le Dieu qui est la source de toute vie appelle et assemble un peuple hors du monde ordinaire, le monde des hommes. C'est une assemblée qui est marquée par Dieu et qui vit selon d'autres critères que les critères du monde. C'est en fait une nouvelle création, une nouvelle humanité. Ça n'est pas une ethnie particulière, non. Mais comme Dieu l'a promis à Abraham il y a si longtemps, c'est de toutes les nations et même plus de toutes les tribus, mes amis. Donc voilà le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et puis, nous avons l'autre image, la troisième image de Paul ici, la colonne et l'appui de la vérité. Et Paul pensait à ce temple à Éphèse, le temple de Diane. Mais ici, la colonne, elle n'est pas là pour empêcher que le temple s'écroule. Non, elle élève aux yeux de tous, quoi ? La vérité de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Et c'est une chose dont le monde autour est entièrement démuni. Il n'y a pas de vérité dans le monde. Écoutez les experts dont on entend tellement, on les entend tellement pour le moment. Il y en a un qui dit cela, il y en a l'autre qui dit le contraire, et on ne sait pas quoi. Et même quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a du mal à le croire. Non, le monde n'a pas la vérité, mais l'Église a le bénéfice d'avoir la vérité et le rôle, le mandat d'élever la vérité à la vue de tous. C'est la colonne de la vérité. C'est la vérité sur l'état de l'homme. Il est mort dans le péché. Il est condamné par la justice de Dieu. L'Église doit annoncer cela. Ça n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est la vérité. La vérité au sujet de Dieu, qui a fourni l'agneau du sacrifice, afin que celui qui croit soit dégagé de toute condamnation et soit réconcilié avec le Dieu vivant. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile par rapport à l'état de l'homme, mais par rapport à l'œuvre de Dieu aussi. Et Paul, ayant parlé de la vérité, il termine ce passage, parce que c'est un peu la fin d'un passage ici. Il termine son passage en citant une confession, une déclaration de foi qui était, semble-t-il, commune dans l'Église à l'époque. C'est pour ça qu'il dit « sans contredit », enfin ce qui est traduit par « sans contredit », c'est-à-dire de l'aveu de tous. De l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Et Paul termine par ça, il vient de dire « l'Église est la colonne de la vérité » et voilà six facettes de la vérité. Ce que l'Église croit, c'est de l'aveu de tous, sans contredit. Et de quoi parle-t-il ? Et c'est notre premier grand point. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Et il nous faut examiner ça parce que ça peut être simplement une expression religieuse qui n'a pas de prise sur la vie directe, souvent. Faisons attention. Quand Paul déclare que le mystère de la vérité, de la piété, pardon, est grand, il est probable qu'une scène ancienne résonne dans ses oreilles et se passe dans son esprit. Il se rappelle du jour, il y a quelque temps déjà, où, suite au progrès de l'Évangile à Éphèse, une émeute s'est produite à Éphèse. Et il se souvient comment des milliers d'Éphésiens se sont retrouvés dans l'amphithéâtre de la ville pour crier pendant des heures « Grande est la Diane des Éphésiens !» Ils étaient poussés par les commerçants, parce qu'il faut gagner sa vie, n'est-ce pas ? Comme aujourd'hui, on le voit. Et « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et Paul pense à cela et il rebondit sur ce souvenir. Ce n'est pas à l'homme de donner une grandeur supposée à une idole qui est illusoire. Diane n'existe pas. Sinon que ce sont les hommes qui l'ont créée. Non, et elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande, elle ne pouvait même pas sortir de ce temple. Le monde est ainsi. Il est poussé par ses sentiments en dépit de la réalité. Il ne voit pas que cette idole ne peut même pas bouger. Ici, là où nous sommes, nous avons des fois des processions au mois de janvier où on prend une espèce de statue, c'est disons un saint, et on la promène autour des vignes pour protéger les vignes. Mais comment est-ce qu'un bout de bois ou un bout de pierre peut protéger des vignes alors qu'elle ne peut même pas marcher? Voilà ce que le monde dit au sujet de Diane et de toutes ses divinités. Le monde est ainsi, mais pour le croyant, c'est différent. Pour Paul, c'est différent. Non seulement Dieu est grand, mais son dessein de grâce lui-même est grand, car c'est de ce dont Paul parle ici. Il parle du dessein de grâce, le mystère de la piété. Et arrêtons-nous un instant sur deux mots qu'il utilise. Premièrement, le mystère. Le mystère. Alors, les amis qui sont en Afrique savent que j'ai un système. Pour les grands points, j'ai même un carré. Donc, le mystère de la piété, c'est un carré. Et puis, pour les sous-points, on met un triangle. Alors, c'est le premier triangle sous le premier carré, là. C'est le mystère. Et la plupart d'entre vous, vous le savez déjà probablement, mais il est bon de le redire. Dans la Bible, un mystère n'est pas un mystère au sens où le monde le comprend. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible qu'il faut essayer de trouver. Non. Il faut pas, ça n'est pas une enquête criminelle. Non, non. Il s'agit plutôt d'un élément ou d'un aspect de la vérité que l'homme ne peut pas découvrir par lui-même. Pour qu'il connaisse cet aspect, il faut que ça lui soit révélé. C'est un mystère. Il faut que l'Esprit de Dieu l'éclaire. Voilà ce que c'est un mystère dans la parole de Dieu. Et en utilisant ce mot mystère, Paul dit, en fait, l'œuvre de grâce que Dieu accomplit n'est pas une invention de l'homme, mes amis. Non. C'est une œuvre de Dieu et personne ne peut la saisir à moins que Dieu ne donne sa lumière. C'est pour ça qu'on a prié tout à l'heure. Il faut que Dieu éclaire. Il faut que Dieu éclaire. Dieu est bon pour l'Église et l'Église est bénie. Et c'est pour cela que Paul emploie un autre mot. Et c'est notre deuxième triangle. On a vu que c'était un mystère. Maintenant, c'est le mystère de la piété. La piété. Paul parle du mystère de la piété. Il est bon de noter, de souligner, que bien que Paul parle de la vérité, il ne parle pas, il ne dit pas le mystère de la vérité. Il va plus loin parce qu'il parle dans le cadre de l'Église. Il ne dit pas non plus, remarquez bien, le mystère pieux de la vérité. Non. En fait, Paul parle d'une vie qui se conforme activement à la vérité. C'est la vie de l'Église. C'est la vie des croyants. L'accent est très pratique, mes amis, concret. Et il vise, ici, Paul vise à motiver l'Église, à travers le conducteur, à vivre la vie de Dieu. Les orfèvres d'Éphèse criaient la grandeur de leur idole. Les légalistes judaïsants qui venaient de Jérusalem, ils bavardaient sur la grandeur de leur loi. Il fallait se faire circoncire. L'Église, pour sa part, vit la vie de Dieu dans un monde étranger, un monde hostile. On pourrait dire, aujourd'hui, on dirait un monde alien. Et cela, bien sûr, lance un défi à chacun de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Paul continue maintenant en mentionnant les diverses facettes de ce mystère. L'Église doit élever la vérité aux yeux de tous. Elle doit défendre la vérité face aux attaques de la religion multiforme de l'homme. Encore aujourd'hui, l'Église doit donc connaître la vérité pour la vivre. Paul en dresse la liste selon 6 grands actes. Soulignons un point en commençant l'examen de ce que Paul dit ici. Et c'est notre deuxième grand point, deuxième carré, si vous voulez. Dieu. Car Paul commence ainsi. Grand est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu. Il commence ici. Et nos versions ont du mal à rendre vraiment le mot utilisé par Paul. Ça n'est pas en fait Dieu. Dieu n'est pas faux, mais Paul est plus plein que cela. Et la meilleure manière de rendre ce qu'il dit ici est peut-être de dire tout simplement « il ». Oui, « il ». Bien entendu, on comprend pourquoi certains ont traduit par « Dieu » ou une autre version dit « celui qui ». Mais le mot « il » souligne une merveilleuse vérité d'une grande puissance. Le mystère de la piété, mes amis, est une personne. C'est une personne. C'est il. Il. Je pense que la plupart d'entre vous vous direz, eh bien sûr, on sait cela. On est d'accord, mais n'avons-nous pas tendance à mettre en oubli les fruits de cette vérité? La vérité, ce n'est pas un ensemble de vérités, de règles, d'informations qu'on peut accumuler avec un peu d'effort et de persévérance. Ça n'est pas un cours dans la vérité qui peut former la vérité. Beaucoup de jeunes chrétiens, des fois moins jeunes, font cette erreur malgré toute leur sincérité. Ils veulent arriver à arranger la vérité de façon à pouvoir la présenter comme un système. C'est une erreur. Le mystère de l'œuvre de Dieu, mes amis, est une personne, Christ. Laissons cette vérité nous posséder. Et il est donc impossible de le connaître et de grandir dans cette connaissance à moins que Dieu ne le révèle par son esprit. Vivre la vérité en action est une union avec celui qui est la vérité. Ça n'est pas simplement un code moral. C'est beaucoup plus que cela. Et c'est beaucoup plus beau que cela. Les Juifs suivaient Moïse, mais eux-mêmes ne pouvaient pas vivre selon les préceptes de sa loi. Jésus les met à défi et ils n'ont pas relevé le défi. Paul, pour sa part, déclare « Christ est ma vie et mourir est un gain ». Il continue en disant « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Vous voyez comme quoi ce mystère de la piété, c'est plus qu'un manuel de vérité. Cela fait toute la différence. L'union du croyant avec Christ, dans la pensée, dans les convictions, dans la vie, voilà la puissance du siècle à venir. Voilà la puissance du royaume de Dieu. Et Paul montre maintenant 6 des facettes de ce merveilleux diamant de l'œuvre de Dieu dans son peuple. Et il le fait en reprenant ce qui devait être une confession de foi, une déclaration que l'Église devait avoir. Vous savez, des fois, on a des textes qu'on répète et quelqu'un va lancer la première partie de la phrase et tout le monde sait de quoi on parle. Eh bien, il semble, la manière dont c'est construit, que Paul reprend cette confession, cette déclaration de foi. Et c'est une grande déclaration de foi. Et nous allons simplement l'examiner. Et nous avons donc un autre point ici. Il dit, ce mystère de la piété, il commence par Dieu a été manifesté en chair. Manifesté en chair. C'est là que Paul commence. Mais le mystère de la piété ne commence pas à Bethléem. Nous le savons, n'est-ce pas? C'est pour cela que Paul dit, ce mystère a été manifesté en chair. Celui qui a revêtu un vrai corps humain lors de l'incarnation est celui qui existe dès avant les temps éternels. Si on pourrait dire, avec la pauvreté des mots humains, il existe avant l'éternité. Il est vrai Dieu de vrai Dieu, comme le déclare une des confessions actuelles. C'est un mystère que la nature humaine cohabite avec la nature divine en une seule personne. Qui aurait pu l'imaginer? Quel homme aurait pu inventer cette idée? Non, c'est un mystère. Mais c'est ce que Dieu révèle. La promesse de l'Évangile se réalise. Vous savez, cette promesse qui a été donnée il y a si longtemps, la postérité de la femme vient dans la chair écraser la tête du serpent. Voilà de quoi encourager l'Église. Mais Christ ne s'est pas fait homme pour nous guider. Ce n'est pas un chef moral, non. Ce n'est pas quelque modèle cosmique de ce que l'homme doit être. Beaucoup de gens dans le monde pensent que c'est cela. Non, Christ revêt un corps pour pouvoir faire ce que Dieu ne peut pas faire autrement. Il vous a, nous dit la parole, Paul lui-même en Colossiens chapitre 1, verset 21, il dit, il vous a maintenant, Dieu vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il y avait eu péché, il fallait une mort, et donc il fallait une incarnation. Christ a été manifesté en chair. Il est né pour mourir. Il est né pour mourir. C'est un vrai corps qui a été cloué, mes amis, sur une vraie croix, par de vrais clous. C'est un salut efficace. Un salut efficace. Parce que c'est le salut, la mort, c'est le sacrifice qui peut ôter le péché. Donc, manifesté dans la chair. Deuxièmement, justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Jésus-Christ est né et il est mort sur la croix. Mais une chose est sûre, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il a été justifié par l'Esprit. C'est-à-dire que par la résurrection de Jésus-Christ, l'Esprit de vie, Dieu, déclare que tout ce que Jésus a dit qu'il était, tout ce qu'il a fait est vrai, est vrai. Il est le Fils de Dieu envoyé pour accomplir le salut de son peuple. Mais si je puis dire, ce n'est pas seulement une vérité théologique, l'élément d'un système de pensée. Non, ce n'est pas simplement cela. Quand il est dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est vrai. L'Esprit l'atteste. Quand Jésus lui-même dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », c'est vrai. Si aujourd'hui tu crois et tu viens Christ parce qu'il a été élevé, c'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Quand il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », mes amis, c'est vrai. Et enfin, quand sur la colline de Golgotha, au lieu du crâne, en dehors de la ville, le lieu maudit, il s'écrit « Tout est accompli, tout est fait », c'est vrai, c'est vrai. Le fait que l'Esprit déclare juste et vrai Jésus-Christ est d'une grande consolation pour le peuple de Dieu. Tout le reste milite contre ça. Même aujourd'hui, avec ces vérités à géométrie variable, c'est vrai pour toi mais pas vrai pour moi et ainsi de suite. Non, il n'y a aucune consolation là-dedans. Et il n'y a aucune vérité d'ailleurs. Mais l'Esprit justifie Jésus-Christ, le déclare juste, dit ce qu'il a dit est vrai. Mystère de la piété, mes amis, il, Fils de Dieu, a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit. Troisièmement, vu des anges. Vu des anges. Et il est certain que tout le ministère terrestre du Seigneur Jésus a été un sujet de contemplation de la part des anges. On les voit souvent. On en voit souvent la mention. À sa naissance à Bethléem, il y a, caché aux yeux des hommes, cette multitude de l'armée céleste qui soudain éclate en concert de louanges devant les bergers ébahis. Ils sont là. Les anges sont là dans la tentation au désert. Nous les voyons. Les anges sont là à Gethsémané et ainsi de suite. Et il n'est pas moins certain que les anges apprennent beaucoup de choses concernant le dessein de la grâce qui est en Jésus en regardant l'Église. C'est ce que les apôtres nous disent à plusieurs reprises. Toutefois, ici, on peut se demander ce que une telle déclaration fait ici. Qu'est-ce que ça fait ici dans cet exposé du mystère de la piété, de la grandeur du mystère de la piété? Cette déclaration semble dénoter un peu. Et c'est pourquoi il est possible que les anges ici, rappelons-nous que le mot ange veut simplement dire messager, que les anges ici sont en fait plus que les anges angéliques, si je puis dire, ce sont en fait les apôtres. Les apôtres. Ainsi, la mention du fait qu'ils ont vu Jésus, qui est le mystère de la piété, entre bien dans la déclaration de la pensée de cette confession de l'Église. De cette manière, leur témoignage, qui est en fait le fondement pour l'Église, leur témoignage est vrai et il revêt une grande autorité pour le peuple de Dieu. Vous voyez, les frères dans l'Église pouvaient dire « le mystère de la piété est grand ». Oui, il a été vu des anges. C'est-à-dire que ceux qui nous enseignent, ceux que Jésus a envoyés comme don pour son Église, quelque chose que Paul lui-même écrit à Éphèse, eh bien, ceux-là même, ils l'ont vu, ce sont des témoins oculaires. Ce qu'ils disent est vrai, est vrai. Et il y a une grande autorité. Ceux qui ont parlé sont ceux qui ont vu. Et même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se lève, on va annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'on annonce quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'on a vu? Vu dans la parole de Dieu. On va annoncer aux uns et aux autres, dans la rue, dans la maison, partout où on rencontre les uns et les autres, on va bavarder l'Évangile. Mais est-ce que nous avons vu celui qui est l'Évangile, celui qui est la bonne nouvelle? Le mystère de la piété est grand, manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Quatrièmement, prêché aux nations. Prêcher aux nations. Et cela suit bien la compréhension des anges comme étant les apôtres. Parce que non seulement ils ont vu le Seigneur ressuscité, mais ils sont allés annoncer sa victoire sur la mort, son œuvre parfaite de rédemption aux nations. Et bien sûr, aux nations, dans la Bible, ça veut dire aux païens, à ceux qui sont en dehors des confins du judaïsme. Et ça, c'était le mandat qu'ils avaient. Ils sont allés annoncer aux nations. C'est le mandat que le Seigneur leur a donné juste avant son départ pour le ciel. C'est aussi le sens que donne le Saint-Esprit à sa venue lors de la Pentecôte. Christ remonte au ciel et de sa gloire, il envoie le Saint-Esprit pour ouvrir les portes devant son peuple. Il est bien mentionné lors de la venue de ce Saint-Esprit au jour de la Pentecôte que ceux qui étaient alors à Jérusalem venaient, je cite, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Vous allez me dire, oui, mais il est mentionné qu'ils étaient des Juifs. Oui, mais des Juifs qui croient, puisqu'ils vont se faire baptiser et ils vont repartir pour beaucoup dans toutes les nations qui sont sous le soleil. Il a été prêché aux nations. C'est aussi le sens de l'instruction de Paul aux Éphésiens. Il leur dit, au chapitre 4 de sa lettre, la lettre aux Éphésiens, il leur parle des dons que Christ a envoyés, a donnés aux hommes, afin que tout le corps s'engage dans l'œuvre du ministère, comme il dit, c'est-à-dire l'œuvre du service, pour vivre la vie de Christ dans un monde hostile, un monde ignorant. Donc le mystère de la piété est grand, vous voyez, il est manifesté en chair. Christ est manifesté en chair, justifié par l'Église, par l'Esprit, pardon. Et il a été vu des anges, prêché aux nations et cinquièmement cru dans le monde. Et là encore, on continue. Le mystère de la piété ne concerne pas simplement la vérité au sujet de Jésus, mes amis. Non, ça va beaucoup plus loin que cela. Le mystère de la piété ne se limite pas non plus à la diffusion de cette bonne nouvelle à tout le monde. Non, on peut annoncer des tas de choses et personne ne les entend, personne ne les écoute. La force de cette affirmation ici est double. D'une part, elle souligne que le Dieu trinitaire est à l'œuvre partout à la surface du globe. Partout, partout, il touche les cœurs. Il accompagne la prédication et l'annonce de son évangile par la puissance de son esprit. Cet esprit donne la vie à tous ceux qui sont aimés de toute éternité et ces gens, en entendant la vérité pour la première fois, avec des oreilles qui sont débridées, des oreilles qui sont enfin guéries de leur surdité, ces gens-là placent la foi qu'ils reçoivent de Christ en celui qui a accompli l'œuvre de rédemption. Vous voyez, le salut, c'est une œuvre trinitaire. C'est une œuvre de Dieu. Et l'homme n'a aucun rôle à jouer, sinon recevoir. L'affirmation, par ailleurs, souligne le fait que le peuple de Dieu annonce la bonne nouvelle et qu'il le fait sans barrière. Il est cru dans le monde. Et on pourrait dire, la seule limite, c'est le monde. C'est le monde. En effet, Paul pose la question. Allons en Romains, chapitre 10. Et regardons ce qu'il dit. C'est un passage que certainement vous connaissez bien. Romains, chapitre 10. Regardons à partir du verset 14. Nous parlons du fait que l'évangile, le mystère de la piété est prêché dans le monde, qu'il est cru dans le monde. Regardez, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment est-ce que les gens vont être sauvés s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, l'Église reçoit ce mandat d'annoncer la parole, prêcher la parole. Et les apôtres l'ont fait, ceux qui ont cru à travers eux ont continué de le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est une des marques. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des tas de gens qui vont faire des vidéos parce qu'il y a eu un obstacle. Mais la parole de Dieu n'est pas confinée, il n'y a pas d'obstacle pour la parole de Dieu. Et cette parole qui va, elle est crue. Là où Dieu agit par son esprit. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux croire? Eh bien, viens au Seigneur Jésus. Écoute, tout simplement. Écoute. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur comme au temps de la rébellion. Non, non. Viens simplement à lui. il est cru dans le monde. Donc, l'Église annonce cette bonne nouvelle et sans barrière, sans barrière, parce que la limite est le monde. Mystère de la piété est grand, certainement grand, de l'aveu de tous, manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout au long de cette confession, rappelons-nous, sans contredit, c'est reconnu par toute l'Église. On a pu suivre une sorte d'ordre chronologique, l'incarnation, la résurrection, et ainsi de suite. Et ici, cet ordre semble être rompu parce que ça semble placer l'ascension après la diffusion du message de salut dans le monde entier, après la Pentecôte, on pourrait dire. D'autant plus que le mot « élevé » ici, qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé lors de l'ascension dans les textes bibliques. Mais il semble que la référence soit moins historique, c'est-à-dire l'événement de l'ascension, que positionnelle. Ça ne parle pas tant du fait que Jésus est monté aux cieux que du fait qu'il est dans les cieux. Christ est maintenant non seulement élevé, mais il réside dans la gloire. Il est assis à la droite de la puissance. Timothée, tu peux instruire une assemblée de païens. Tu peux te dresser contre les erreurs des judaïsants. Peuple de Dieu, tu peux croire, tu peux déclarer ces vérités avec cette belle déclaration de foi. Notamment que ce mystère sera cru dans le monde. Pourquoi ? Pourquoi ? Sur quoi est-ce qu'on ose se baser pour aller annoncer l'Évangile à des gens qui le repoussent, qui le rejettent, des gens qui ne veulent pas l'entendre ? Quelle est la base ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Christ est élevé dans la gloire. Comme il l'a dit lui-même, avant d'envoyer son peuple dans le monde, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Conséquence, allez, allez. Et vous voyez comment Paul, utilisant cette déclaration de foi de l'Église qui était peut-être devenue trop coutumière pour qu'il s'y arrête, lui, il montre comme quoi c'est la puissance même de l'Église. Le Christ qui a été manifesté vrai homme pour pouvoir accomplir le salut. Ce Fils qui a véritablement accompli le salut, l'Esprit l'atteste. Ce Fils qui a été vu, ça n'est pas simplement des fables, qui est annoncé dans le monde et il y a des résultats. Eh bien, ce Fils, il est élevé dans la gloire. Et donc, maintenant, l'Église doit vivre la vie de Christ. Pourquoi ? Parce que Christ est élevé dans la gloire et parce que Christ donne la vie. Christ œuvre dans son peuple. Mais il reste une dernière chose à souligner rapidement. Nous avons vu que Paul dit « le mystère de la piété est grand ». Et nous avons remarqué qu'il ne dit pas « le mystère de la vérité ». Et maintenant, je veux simplement passer quelques minutes à regarder la piété du mystère. La piété du mystère. Parce que quand Paul utilise le mot « piété », il souligne le côté pratique, le côté vécu de la révélation de cette vérité mystérieuse. Non seulement le mystère concerne Christ, la tête, mais il englobe aussi tout le corps. Tout le corps. Ce corps qui, pour partie, est encore manifesté dans la chair. Comment est-ce que le monde va voir la bonne nouvelle en Christ ? Par l'Église. Il y a cette sorte d'incarnation, n'est-ce pas ? L'Esprit justifie le témoignage de l'Église. Si quelqu'un, dit Paul, vient du dehors et pénètre dans vos réunions, et qu'ils voient de toute vérité, Dieu est parmi vous. L'Esprit justifie le témoignage de l'Église. Christ n'est-il pas dépeint graphiquement chaque fois qu'il est annoncé? Oui, c'est ce que Paul dit. L'Église n'a-t-elle pas d'autres ambitions, des ambitions spirituelles planétaires? Oui, comme le disait un ancien serviteur de Dieu, ma paroisse, c'est le monde. Oh, nous en voyons certaines expressions aujourd'hui, n'est-ce pas? L'Évangile n'est-il pas cru aujourd'hui dans le monde entier? Tout à l'heure, quand on s'est mis en direct, on a vu des gens qui se connectent de tas et des tas de pays. Oui, l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ est cru dans le monde entier aujourd'hui. Et mes amis, ce mystère de la piété du mystère, c'est quelque chose de très pratique parce que le peuple sera un jour assurément élevé dans la gloire. Et comme le dit Jean lui-même, il dit « Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Que le Seigneur nous donne la compréhension de ces choses. Plus que cela, qu'il nous saisisse de la puissance de cette piété, de la vérité en action, de la vérité vécue dans la vie du monde. Oh, mes amis, que le Seigneur se glorifie et qu'il vous bénisse dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre. Allez, car toute autorité lui a été donnée. Amen.